Bonjour, bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter et merci de nous être fidèles tous les samedis au sommaire de l'émission jusqu'à 13h dans un instant. Retour sur la semaine avec le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein et puis le débat à quelques jours des Césars. Ce sera vendredi prochain, une cérémonie qui se prépare sous haute tension après une année ciné marquée notamment par l'affaire Polanski. Le récit de Ronan Farrow, la colère d'Adèle Haenel, comment filmer les femmes après la vague MeToo et le combat féministe doit-il passer par une bataille sur le front des images. L'égalité entre hommes et femmes est-elle aussi une question de représentation au cinéma, à la télévision, dans la pub? Invitée du grand face-à-face, elle publie un essai passionnant, Le regard au féminin, une révolution à l'écran. Elle est autrice, critique cinéma. Rendez-vous avec Iris Bray dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut à tous les deux.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Je peux dire autrice, Natacha, on dit bien directrice.
Oui, puis c'est pour ça, les évolutions du vocabulaire, quand elles se font de façon naturelle et spontanée et selon une nécessité, me semble tout à fait louable.
Et pour revenir sur la semaine, on commence évidemment par ça.
Vous savez, nous sommes des femmes et des hommes. Je suis un père de famille. Et ça vaut pour chacun d'entre nous. Et donc, il faut accepter aussi nos forces, nos fragilités. Il ne faut pas prétendre qu'on soit des super-héros. Et moi, j'invite la classe politique à beaucoup de modestie. J'ai été surpris d'entendre Olivier Faure ici, dans votre micro. Je connais bien Olivier Faure à titre personnel depuis longtemps. Je l'ai accompagné dans ses divorces, dans ses séparations. Et c'est vrai que j'ai entendu... En étant assez étonné, ces leçons de morale.
C'était le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, mercredi matin au micro de Nicolas Demorand. Des propos, une attaque personnelle qui ont déclenché l'indignation de tous les bords de la classe politique, du principal intéressé lui-même. Olivier Faure parlait d'une faute grave commise par Christophe Castaner. Une ligne rouge aurait été franchie à l'en croire. Et c'est l'un des derniers développements de cette affaire stupéfiante, ce qu'on appelle le Grivogate. Un mot en couverture. Ouverture de Marianne, et c'est un gros mot, Natacha.
Oui, enfin, il n'y a pas qu'un mot, il y en a trois.
Il y en a trois,
le
mais
con,
celui-là...
les brutes et les truands.
Le
et,
con ?
Ben oui, il y a celui qui a commis, non pas une faute morale, mais une faute professionnelle. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que n'importe quel parent explique à ses adolescents qu'on n'envoie pas ce genre de vidéo quand on, parce qu'on ne sait pas où ça va aller. Bon, voilà, c'est très étonnant de la part d'un secrétaire d'État. Oui, mais en général, quand on est secrétaire d'État, on a passé l'adolescence. Et ensuite, les brutes, c'est-à-dire des activistes qui ont décidé de déstabiliser un pouvoir pour des raisons d'ailleurs totalement narcissiques. Et enfin, les truands, c'est-à-dire ceux qui en profitent pour nous expliquer qu'il va falloir durcir la loi Avia, durcir la loi fake news, et puis qui finalement ont réussi à sauver une campagne qui tournait au naufrage en mettant Agnès Buzyn, enfin en obligeant Agnès Buzyn à abandonner un ministère en pleine crise de l'hôpital. Enfin voilà, tout ça est merveilleux. Mais sur Christophe Castaner, là, ce qui est extraordinaire, c'est quand même que c'est... Quand on a touché le fond, on peut toujours sortir les tractopelles, quoi. C'est-à-dire que, en termes de dignité, ces derniers temps, la classe politique atteint des sommets. Parce que si on réécoute la déclaration d'Olivier Faure, Olivier Faure avait été parfait justement parce qu'il n'avait pas parlé de morale. Il avait expliqué, encore une fois, ce que je viens de dire, à savoir que il y a un problème de compétences et de fautes professionnelles, mais qu'après chacun fait ce qu'il veut dans l'intimité de son rapport conjugal, ça le regarde. Donc il ne n'étalait pas la vie privée. Christophe Castaner répond sur un domaine, c'est absolument effarant, mais effarant.
Gilles Finkelstein, sur ce sujet, et ensuite on va parler du fond de l'affaire Grivo.
Oui, sur ce sujet, je n'en dirai pas tellement plus, parce que je partage ce que vient de dire Natacha Polony, d'ailleurs à tel point que Christophe Castaner a fini par regretter publiquement les propos, à la fois sur Twitter, puis dans une déclaration à l'AFP. Ce n'est pas l'épisode le plus glorieux de cette sombre semaine, sur laquelle il est intéressant de revenir un peu à froid. Une semaine après. Donc quand Natacha Polony dit ce n'est pas une faute morale, c'est une faute professionnelle, je crois que c'est exactement ça. C'est une enquête réalisée par l'IFOP a montré à quel point cette pratique de l'envoi de vidéos ou de photos était une pratique répandue.
Enquête passionnante justement.
Enquête passionnante, 36% des 18-30 ans y ont recours et un pourcentage également important de l'ensemble de la population. Donc il y a pas de
36% des jeunes qui auraient envoyé des dick pics comme on appelle ça, et pour les adultes et l'ensemble de la population française, on est à 16% à peu près.
C'est ça. Donc c'est une pratique relativement courante, pas de jugement, aucun jugement moral.
En revanche,
faute professionnelle, et je crois
pourquoi
faute professionnelle?
Si ça relève de l'intimité, il y a quelque chose de contradictoire à dire. On n'a pas à s'intéresser à la vie privée de chacun, et la vie publique s'arrête à la porte de la chambre à coucher, ou de la salle de bain, ou peu importe. Mais en l'occurrence, s'il y a cette limite-là, pourquoi s'indigner ou critiquer ça sur le plan professionnel ou technique?
Alors, quand on essaye, c'est peut-être là l'intérêt de, une semaine après, d'essayer de remettre en perspective ce qui s'est passé dans l'histoire de la vie privée. On assiste, je crois, à un renversement historique. En gros, de manière extrêmement schématique, au XVIIIe et au XIXe siècle, c'est l'histoire de la vie privée de Duby, avoir une vie privée était un privilège de classe. C'est-à-dire que les pauvres, parce qu'ils vivaient dans le village, parce qu'ils vivaient nombreux dans des habitations étroites, n'avaient pas de vie privée. Mmh. Le XXe siècle a été un siècle dans lequel tout le monde a accédé à la vie privée, à la fois parce que ses conditions matérielles ont évolué et parce que la vie privée a eu une valeur qui est devenue une valeur sacrée et protégée par les grands textes et notamment par le Conseil constitutionnel. Ce à quoi nous assistons depuis quelques années est un renversement historique au sens où ce sont maintenant les puissants, les célébrités qui ont moins le droit à une vie privée que les autres. Et c'est ça qui est terrible, et c'est ce en quoi c'est une atteinte à la démocratie, et je crois ce en quoi c'est un problème, parce que ça commence par ceux qui sont les plus célèbres, et ça peut demain toucher tout le monde.
Natacha.
Je pense que, enfin, dans la guerre du Péloponnèse, Thucydide donne une définition de la démocratie extrêmement intéressante. On est à la fin du 5e siècle, début du 4e siècle avant Jésus-Christ, et déjà, l'un des éléments essentiels pour définir la démocratie, selon lui, est la différence entre la frontière entre espace public et espace privé. C'est absolument fondamental. Mais ce que nous sommes en train de vivre est plus intéressant, puisqu'en fait, le problème est que les réseaux sociaux, qui auraient pu être une extension de l'espace public et une sorte d'agora absolument passionnante, sont au contraire une extension de l'espace privé. Et en fait, sont devenus le lieu de déversement de cet espace privé qui devient public, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et ce qui est profondément dangereux, je pense, et nous n'avons pas fini de voir les conséquences de cela. Et ce n'est pas parce que ça se fait le plus souvent volontairement de la part, alors là en l'occurrence chez Benjamin Griveaux, ça n'était pas volontaire, mais dans les pratiques aujourd'hui, la rupture entre l'espace privé et l'espace public est souvent volontaire, et d'ailleurs chez les politiques en particulier, et dans un sens, même un Benjamin Griveaux qui met en scène sa famille en une de Paris Match abolit cette frontière entre espace public et espace privé, ce qui lui revient dans la figure.
Enfin, c'est un passage obligé pour tout politique qui a des ambitions.
C'est devenu un passage de plus en plus obligé, et ça a des conséquences, en effet, par la suite, sur la façon dont nous percevons cette frontière essentielle pour la liberté.
Donc, con.
En tout cas, victime, oui,
bon,
et
victime
par imprudence et par incompétence.
Bon. Gilles, une question malgré tout, puisque vous mesurez l'opinion et que vous savez absolument tout de ce qu'il y a dans la tête des Français, mais on a vu une condamnation absolument unanime après cette porno-divulgation, comme on l'a présenté. Condamnation unanime, est-ce qu'elle est partagée par les Français? Puisque si tout le monde trouve qu'on n'avait pas à diffuser cette vidéo et qu'après tout, c'est l'affaire de Benjamin Griveaux et de la personne à laquelle il envoyait ces images et que c'était apparemment une relation consentie, ça ne devrait pas avoir d'incidence et on devrait y être indifférent. Or, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Benjamin Griveaux a été contraint ou a choisi de démissionner et quant à l'opinion publique, on dit qu'elle n'aurait pas suivi un candidat au municipal après la divulgation de ces vidéos.
D'abord, je ne sais pas quel est. Il n'y a pas eu encore d'enquête pour savoir ce que les Français pensaient du sujet. En revanche, ce que l'on sait déjà, c'est combien ont été exposés et combien en ont parlé. Et c'est des proportions absolument considérables pour un événement comme ça, puisque 75% des Français disent en avoir parlé, donc dans la semaine écoulée, et 4 millions d'entre eux avoir vu la vidéo, ce qui est les vidéos, ce qui est absolument considérable. Donc c'est un vrai événement d'opinion. Est-ce qu'il aurait dû avoir comme conséquence le retrait de la candidature de Benjamin Griveaux ? Là, je crois qu'il faut distinguer deux choses. D'un point de vue de la démocratie, on peut soutenir l'idée que il aurait dû maintenir sa candidature et faire acte de résistance face à une situation qui est inacceptable.
Oui.
Après, d'un point de vue personnel, du point de vue psychologique, je pense que lui a considéré peut-être qu'il aurait dû rester, mais qu'il ne pouvait pas le faire, qu'il ne pouvait pas le faire, peut-être pour des raisons politiques, sûrement pour des raisons personnelles et psychologiques. Et là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de respecter le choix qu'il a fait.
Encore un mot et on va changer de sujet.
Un mot ensuite sur les commentaires auxquels tout cela a donné lieu.
Oui.
Première chose, l'un des éléments les plus amusants et les plus consternants en même temps a été de voir un artiste russe qui célébrait comme artiste héroïque, résistant à Vladimir Poutine, tout à coup devenir en l'espace de deux jours, par les mêmes qui le célébraient, un activiste dangereux, éventuellement manipulé par Vladimir Poutine. Oui. Donc je pense qu'il y a un peu d'excès dans les deux sens. Et qu'il faut peut-être raison garder, mais en tout cas, le concept d'artiste dans ces cas-là mérite d'être interrogé. Je ne sais pas si se clouer les couilles sur la place rouge équivaut à peindre Guernica. Pour ma part, j'ai un doute. Et deuxième chose, je le disais tout à l'heure, la conséquence de cela, c'est que tout à coup, on vient nous expliquer qu'il faut durcir la loi fake news.
Je suis en train de réfléchir à votre comparaison entre Piotr Pavlensky et Picasso.
Voilà, merci. Non, mais après, la conséquence, c'est qu'on va nous expliquer qu'il faut durcir des lois qui sont des lois qui réduisent la liberté d'expression, alors que le problème dont il est question n'a strictement rien à voir. C'est quand même effarant. Mais immédiatement, on a des supposés libéraux qui ne pensent qu'à une chose, c'est restreindre les libertés. Je trouve ça profondément inquiétant.
Et d'un mot, puisque 4 millions de personnes ont vu cette vidéo, qu'est-ce que ça dit de nous, pour le coup ? Nous sommes tous voyeuristes ?
Pour ma part, je ne l'ai pas regardé. On m'a envoyé le lien, je n'ai pas regardé.
Gilles, sans mentir ?
Je n'ai pas envie.
Sans mentir, je l'ai vu et franchement, c'est assez désagréable.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Dans la République, on ne peut pas accepter qu'on refuse de serrer la main à une femme parce qu'elle est femme. Dans la République, on ne peut pas exiger des certificats de virginité pour se marier. Dans la République, on ne doit jamais accepter que les lois de la religion puissent être supérieures aux lois de la République. Ce que nous devons combattre, c'est ce séparatisme que je viens d'évoquer, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de respect.
Le président de la République qui présentait mardi à Toulouse... Le président de la République qui présentait mardi à Mulhouse son plan pour lutter contre le séparatisme islamiste. Les mots sont importants. Le chef de l'État a notamment annoncé que la France allait cesser d'accueillir des imams détachés, c'est-à-dire envoyés par d'autres pays. Natacha, comment est-ce que vous avez reçu ce discours dont on a dit que c'était un discours attendu, qu'il aurait peut-être dû prononcer il y a des mois maintenant ?
Oui, Emmanuel Macron a expliqué qu'il avait parlé 50 fois de la laïcité. C'est curieux, personne ne l'a entendu. On n'avait pas remarqué. Mais bon, il y a deux choses à distinguer, je pense. Il y a les mesures qui sont annoncées et qui me semblent des mesures de bon sens, tout à fait appréciables, qu'il aurait fallu prendre bien avant. En finir avec les imams détachés, en finir avec les ELCO, les enseignements de langue et culture d'origine. C'est d'ailleurs ce qu'avait commencé à faire Najat Vallaud-Belkacem, mais tout cela prend un temps fou et beaucoup trop de temps.
En les transformant en enseignements internationaux aux langues étrangères.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que derrière tout cela, il y a le fait que la France, pendant des décennies, a confié le discours tenu notamment sur l'islam à des gens qui n'étaient pas français, qui ne parlaient pas français souvent et qui ne comprenait rien et n'adhérait absolument pas aux valeurs qui sont les nôtres. Il ne faut pas s'étonner que ça ait des conséquences. En revanche, après, il y a beaucoup à dire sur le choix des mots d'Emmanuel Macron, puisque justement, il adore mettre en scène ce choix des mots, donc en particulier ce mot séparatisme. Voilà. Là, il y a quelque chose qui est très différent. Autant les mesures sont très bonnes, on attend la suite, mais parfait, autant le séparatisme, c'est une petite partie du problème. C'est ce qui est à l'œuvre quand des salafistes vivent en dehors de la République et qu'on nous explique, comme certains chercheurs le font, je pense à Raphaël Liogier ou d'autres gens comme ça, que ça ne pose aucun problème puisqu'ils sont quiétistes. Et le problème est justement dans ce séparatisme qui fait qu'on considère qu'on n'a rien à voir avec la République. Mais ce n'est pas le seul problème. Et effacer la question du communautarisme me semble dangereuse parce qu'en fait, en faisant cela, Emmanuel Macron nous envoie un message. Il dit « Les communautés, c'est formidable, c'est très bien, ça existe désormais dans la République. Sauf que le principe de la République, c'est qu'elle ne reconnaît pas les communautés, mais les individus et le droit des individus à ne pas être enfermés dans une communauté. Et c'est une question majeure. »
Finkelstein, Gilles.
Alors, je vais reprendre la distinction de Natacha Polony entre les mots et les actes. Sur les actes, Natacha dit « ça va dans le bon sens et c'est des mesures appréciables ». Moi, je suis frappé par l'écart entre le discours et les actes. C'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, un discours, je crois, qui est un bon discours, mais il y a relativement peu de mesures derrière. Les mesures sur l'enseignement des langues
et cultures d'origine.
Culture d'origine, vous l'avez dit, ça a été déjà initié en 2016 par Najat Vallaud-Belkacem. Il y a une mesure forte qui concerne l'interdiction des imams détachés, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Vous l'avez évoqué sur la dimension communautaire. Il n'y a rien non plus sur la question des discriminations. Donc moi, je reste plutôt sur ma fin, sur la partie mesure.
Et séparatisme communautarisme,
alors,
Gilles.
En revanche, sur le séparatisme, alors je pense que c'est un vrai sujet. Quand Emmanuel Macron dit il n'est pas acceptable que les lois de la religion soient supérieures aux lois de la République, dans l'enquête que la Fondation Jean Jaurès avait faite en septembre dernier, on a vu que 20% des musulmans disaient que les lois de la religion étaient supérieures aux lois de la République. Donc,
et 50% des jeunes, surtout.
Donc c'est un vrai sujet. C'est une marque de fabrique d'Emmanuel Macron d'essayer d'imposer son vocabulaire, ce qui est d'un point de vue politique, idéologique, compréhensible, en essayant de déplacer le terrain et souvent en ayant pour effet d'ailleurs qu'on concentre notre débat sur la dimension du vocabulaire et pas sur les mesures elles-mêmes. En l'espèce, il n'est pas le premier à avoir fait ça. François Hollande avait parlé de partition, Gérard Collomb avait parlé de sécession et je trouve que le mot séparatisme est plutôt plus clair, parce que l'idée qu'on appartient tous, non pas à des communautés au sens du communautarisme anglo-saxon, mais que dans nos identités, on a aussi des communautés. Je pense que c'est une idée qui n'est pas fausse, et donc le mot séparatisme, je crois, est plus clair. Mais en revanche, je reste plus sur ma fin, sur les actes, que je trouve insuffisants.
Non, les actes,
rapidement, Natacha.
C'est justement là aussi une stratégie politique. Emmanuel Macron annonce une suite, donc on est obligé d'attendre la suite, même si, je vous rejoins, les mesures sont essentielles, elles ne sont pas suffisantes, on est bien d'accord. Mais je crois que le véritable problème est que nous sommes confrontés à quelque chose qui dépasse cette simple question du séparatisme des communautés. Nous sommes en fait dans une situation de société sécularisée qui est confrontée à une religion qui est en voie de refondamentalisation. C'est-à-dire une religion dont certains éléments veulent absolument imposer une emprise sur la totalité de la vie humaine. Et c'est la stratégie des frères musulmans. Ce n'est pas le séparatisme que pratiquent les frères musulmans. C'est l'imposition dans la communauté nationale d'une emprise de la religion sur les musulmans. Et d'ailleurs, leur stratégie est la reconquête, non pas, c'est pas la conquête d'autres croyants, c'est la reconquête des musulmans. Et c'est contre cela qu'il faut se battre. Et la seule façon de se battre contre cela, c'est de partager les fondamentaux, j'allais dire, de la civilisation européenne, qui est que quelle que soit la croyance, la culture d'origine, nous pouvons partager la raison et la lutte, l'idée de l'émancipation vis-à-vis des déterminismes. Or ça a reculé depuis des années.
C'est pourquoi, d'une phrase, il ne s'agit pas seulement d'un enjeu cultuel, mais d'un enjeu culturel.
Exactement.
Le duel continue avec un autre sujet majeur.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Les Européens doivent aujourd'hui collectivement prendre conscience que, faute de cadre juridique, ils pourraient rapidement se trouver exposés à la reprise d'une course aux armements conventionnels, voire nucléaires, sur leur sol. Ils ne peuvent pas se cantonner à un rôle de spectateur.
Une fois n'est pas coutume, toujours le président de la République. C'était la semaine dernière. Emmanuel Macron prononçait un discours à l'école de guerre. Il appelait à une mobilisation des Européens pour la définition, je le cite, d'un dialogue stratégique. Dialogue qui inclurait la dissuasion nucléaire, une réflexion sur la dimension authentiquement européenne des forces nucléaires de la France. L'hypothèse d'une dissuasion nucléaire européanisée, je mets le mot entre guillemets pour le barbarisme, suscite de l'embarras chez les 27. Qu'avez-vous pensé, Natacha, de cette proposition du président ?
Je pense que c'est un très bon discours qu'il a prononcé et que c'est une nécessité absolue aujourd'hui de poser ce problème sur la table. On a eu des flottements pendant des années avec une tentation qui était de partager, de soumettre la puissance de dissuasion nucléaire française à l'idée, ce fantasme d'un couple franco-allemand, ou pas, l'idée de partager même le siège au Conseil de sécurité. Emmanuel Macron n'est absolument pas sur cette idée-là. Il est sur l'idée de penser une défense européenne indépendante et dans laquelle la dissuasion nucléaire est un apport de la France, mais pour autant, et il le constate dans son discours, la dissuasion, ça ne se partage pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il faut appuyer sur le bouton, il faut qu'il y en ait un qui décide. Et c'est toute cette articulation qu'il essaye de mettre en œuvre. Tout le problème est que, en effet, vous l'avez dit, les 27 ne sont absolument pas sur cette même longueur d'onde. Les autres Européens continue à penser que l'OTAN, c'est absolument formidable. Et d'ailleurs, la contradiction d'Emmanuel Macron, c'est qu'il explique que l'OTAN est en mort cérébrale, il prononce ce discours-là, et derrière, il continue à maintenir une déférence vis-à-vis de l'OTAN qui ne permet pas d'aller plus loin dans la construction d'une indépendance européenne.
Gilles.
Alors, j'avais été un peu plus critique que Natacha sur le discours sur le séparatisme. Je vais être un peu plus positif qu'elle sur le discours, enfin sur la séquence, parce que c'est pas seulement le discours de l'école de guerre. C'est une séquence qui a commencé par le voyage en Pologne, qui s'est poursuivie par le discours à l'école de guerre et puis qui s'est achevée, en tout cas provisoirement, par la conférence de Munich. Bon, c'est quelque chose d'assez classique, ce grand discours sur la dissuasion nucléaire. Tous les présidents de la République l'ont fait depuis une vingtaine d'années. Ce qui est un peu nouveau, c'est que dans un discours sur la dissuasion nucléaire, le président de la République aborde la question du désarmement nucléaire. Et ce qui est plus nouveau encore, c'est que dans ce même discours, il n'y a pas seulement les questions militaires qui soient abordées, mais les questions technologiques et notamment les questions de la souveraineté numérique. Et je crois que tout ça est heureux. Le message aux Européens, c'est là où je vais être plus macroniste que Natacha. Je pense qu'il a non seulement raison de dresser la perspective d'une défense européenne, mais je pense qu'il a raison de le faire dans le cadre de l'OTAN. Parce que s'il veut avoir la moindre chance d'embarquer avec lui des Européens dont la culture stratégique n'est pas la même que celle de la France, c'est en restant dans le cadre de l'OTAN. Et que s'il esquissait une sortie de l'OTAN, là, la France serait davantage encore toute seule et n'aurait aucune chance d'embarquer les Européens avec elle.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec l'autrice et critique de cinéma Iris Bray.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Comment filmer les femmes au cinéma, dans les fictions, dans la publicité après la vague MeToo ? Le combat féministe doit-il aussi passer par une bataille qui se mène sur le front des images ? Et si l'égalité entre hommes et femmes était aussi une question de représentation, que ce soit sur tous les écrans ou même dans nos esprits ? L'invité du grand face-à-face aujourd'hui, elle publie un essai passionnant qui vient de paraître aux éditions de l'Olivier. Le titre, Le regard au féminin, sous-titre, Une révolution à l'écran. Elle est autrice critique de cinéma. Bonjour Iris Bray.
Bonjour.
Merci d'être au micro de France Inter. Est-ce que vous allez regarder la prochaine cérémonie des Césars ?
Évidemment.
Évidemment.
Bien sûr, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ça va nous révéler beaucoup de choses, je pense.
Qu'est-ce que vous en attendez de voir si des prix seront remis à J'accuse de Roman Polanski, si il y aura des prises de parole sur scène, des prises de parole fortes, et notamment pour dénoncer le traitement des femmes, de certaines femmes dans l'industrie du cinéma ?
Ça changerait déjà s'il y avait des prises de parole fortes au César, parce qu'il y en a très rarement. C'est souvent une cérémonie qui est dépolitisée. Donc oui, j'attends que certains et certaines prennent la parole. Et puis après, je pense que les prix nous raconteront dans quel pays on vit. Donc ce sera peut-être joyeux, peut-être que ce sera pas joyeux, mais au moins on peut se battre quand on voit les choses.
Qu'est-ce qui vous inquiéterait pour le coup ?
Rien ne m'inquiète.
Rien ?
Non, je suis assez sereine, puisque même si Polanski rafle tout, ben c'est pas très grave. Enfin, ça nous montre qu'il faut changer les choses, qu'il faut parler, et puis les gens ont le droit de voter comme ils ont envie de voter. Donc non, je suis assez sereine.
Quand Adèle Haenel a pris la parole sur le site de Mediapart, c'était il y a maintenant quelques mois, prise de parole très forte. Vous étiez intervenue après sa prise de parole face à la journaliste Marine Turki et face à Edoui Plenel, et vous aviez pris la parole justement pour poursuivre au fond l'alerte qu'elle lançait au-delà de son cas à elle et au-delà de la situation qu'elle évoquait sur les relations qu'elle avait avec un cinéaste. Pour le coup, quand vous avez pris cette parole-là, vous avez l'impression d'avoir été entendu, vous avez le sentiment que ce moment-là, on va l'appeler le moment Adèle Haenel, a changé les choses?
Oui, je pense que ça participe à une prise de conscience générale, que c'était très important que Adèle Haenel prenne la parole, qu'on entende son récit à elle. Elle le raconte elle-même, elle est dans une position assez unique où elle a aussi plus de pouvoir que l'homme qui l'a agressée. Donc on peut entendre sa parole différemment. Et moi, j'étais là pour accompagner cette parole-là et expliquer que les rapports de domination, que ce soit dans la vraie vie, eh bien on les voit aussi sur nos écrans et que ça participe à un système de violences qui sont faites aux femmes et à une culture du viol.
Alors justement, avant d'ouvrir le débat et de donner la parole à Natacha et à Gilles, petit travail de définition, il y a une expression « male gaze ».
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est une expression qui est écrite par Laura Mulvey en 1975. C'est un texte qui a été traduit en France en 2017 pour vous donner... l'étendue de notre retard. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le cinéaste, homme, souvent filme les femmes et nous donne du plaisir en les filmant comme des objets. Donc en fait, le
et
regard
des objets sexuels.
Des objets sexuels. Donc le regard du spectateur-spectatrice est en fait se fait s'identifier au regard de la caméra qui lui-même est le regard du héros qui regarde les femmes. Comme des objets.
Et pour fixer les esprits, justement, ce qu'on voit sur nos écrans, écrivez-vous, nous influence. Le male gaze a renforcé une vision du sexe, des rapports entre sexes où la femme est soumise, où elle est un objet à prendre le plus souvent. Et je vous cite, nous avons donc appris par les images qui nous entourent qu'une femme désirable est une femme qui ne donne pas son consentement. Explication de texte.
Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ? Je sais pas, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est tellement habitué à ces images où on peut prendre le corps des femmes et que ça nous donne du plaisir que c'est quelque chose qui infuse toute notre culture et qu'on a du mal même à reconnaître ces images tellement elles sont partout, tout le temps. Donc il faut déconstruire absolument la manière dont on a construit notre plaisir et notre désir à travers les images.
D'où cette révolution à l'écran, une révolution à venir, Natacha ?
Oui, je pense que je peux être d'accord avec une part de ce que vous expliquez. Et en effet, le cinéma est une industrie du désir et c'est une industrie qui a été faite par des hommes et donc en traduisant le désir masculin, ce qui me semble tout à fait logique et assez compréhensible. Pour autant, la question qui se pose derrière est de savoir d'abord s'il faut évacuer totalement le désir ou s'il faut le reconstruire de façon différente et de façon plurielle. Et ensuite, si cette réflexion sur les rapports de désir, sur les rapports entre les hommes et les femmes, doit être l'unique prisme par lequel on analyse une œuvre. Et en fait, c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai l'impression que nous sommes dans une phase où finalement, ça devient véritablement obsessionnel, comme si le seul élément que nous devions utiliser pour juger de la qualité d'une œuvre, c'était est-ce que ça déconstruit le patriarcat ? D'ailleurs, à un moment dans votre livre, vous expliquez ce qu'est pour vous le female gaze, c'est-à-dire le regard féminin par opposition à ce regard...
Non, pas par opposition.
Enfin, pas par opposition, mais en tout cas, une autre façon...
Comme réponse.
...de voir et comme réponse. Et en gros, le critère, et le critère qu'on retrouve dans toutes vos analyses de films, c'est la question de savoir si ça déconstruit le patriarcat. Il me semble que c'est... Enfin, d'abord, je ne demande pas à une œuvre de déconstruire ou de reconstruire. La question est de savoir, en effet, ce qu'elle nous raconte. Et beaucoup d'œuvres sont empreintes de ce patriarcat. Mais la question est de savoir ensuite comment cette œuvre nous parle, comment elle nous émeut, comment elle construit une vision du monde. C'est tout cela qui... Il me semble que le prisme unique est profondément réducteur.
Iris Bray.
Déjà, ce n'est pas un prisme unique et je ne demande à aucune œuvre de faire quoi que ce soit. Ce que j'interroge, c'est comment est-ce qu'on filme, c'est quoi la mise en scène et qu'est-ce que la mise en scène raconte. Donc, je pense absolument pas qu'il faille évacuer le désir. Au contraire, je pense qu'il faut garder toute notre manière de désirer. Ce que je propose avec ce livre, c'est de dire il y a une autre manière aussi. Et donc, on peut se réjouir de ça puisque il y a d'autres manières de désirer qui sont en dehors d'un rapport de domination. Deuxièmement, je pense pas du tout que l'analyse d'une œuvre se fasse par le seul prisme d'un regard genré. Ce que je propose, c'est une nouvelle définition pour qu'on ouvre en fait les grilles de lecture. Parce que quand on est critique, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit juste décrypter aussi une mise en scène, analyser une œuvre, et de réfléchir en termes de genre peut nous amener des nouvelles grilles de lecture et nous enrichir en fait. Donc ça ne va jamais réduire, ça ne va faire que démultiplier. On ne juge pas la qualité d'une œuvre, c'est pas des bons points ou des mauvais points si c'est une œuvre qui produit du male gaze ou du female gaze, pas du tout. Il peut y avoir des films male gaze qui sont absolument sublimes et des films female gaze qui peuvent être un peu plus ratés. Donc c'est pas une grille de bons points à faire ou à pas faire. Moi, ce que j'essaye de démontrer avec ce livre, c'est qu'on s'est habitué un regard masculin, et ce regard masculin, il n'est pas neutre. Donc quand on regarde un film, c'est intéressant de s'interroger sur comment est-ce que les corps sont filmés, selon si c'est des femmes ou des hommes, parce que ils ne sont pas filmés de la même manière. Donc c'est juste ça que j'interroge, c'est comment est-ce qu'on peut filmer les corps et le désir. Et il me semble que c'est une approche plutôt réjouissante et pas du tout réductrice.
Alors ce qui est réjouissant aussi, c'est cet essai nous incite à penser notre regard de spectateur et à le penser peut-être différemment de ce que l'on fait traditionnellement. Il part, on l'a évoqué, du male gaze, mais il est davantage centré sur le female gaze. Est-ce que vous pouvez, peut-être pour les auditeurs, donner des illustrations de ce qu'est un regard qui, je vous cite, adopte un point de vue féminin pour épouser son expérience? Donc, comment on peut l'illustrer, soit dans des séries, soit dans des films? Et surtout, ma question derrière, c'est: est-ce que c'est une question de genre ou est-ce que c'est une question de point de vue ? Tout à l'heure, vous avez dit, c'est un cinéaste homme filme les femmes comme un objet sexuel, ce qui veut dire que c'est une question de genre. Est-ce que une femme peut faire du male gaze ? Est-ce que un homme peut faire du female gaze ?
Absolument.
Iris Bray.
C'est-à-dire que la plupart de nos films sont réalisés par des hommes, on en a conscience, et depuis trop longtemps. Évidemment qu'une femme peut produire du male gaze, puisque le male gaze, c'est l'inconscient patriarcal, et donc on est tous dans cette société-là, et il faut déconstruire nos images et nos a priori pour pouvoir produire des nouvelles images. Donc, évidemment que beaucoup de femmes produisent du male gaze.
Est-ce que vous avez des exemples ?
Oui, par exemple, mais j'ai pas envie de taper en fait sur certaines cinéastes, mais par exemple Axelle Lafont qui fait un film qui s'appelle MILF, où elle se met en scène avec ses copines en maillot de bain pour montrer que des femmes de plus de 40 ans peuvent avoir du désir. On pourrait se dire que c'est un film progressiste, mais la manière dont elle met en scène son corps à elle, on voit bien que c'est toujours dans le male gaze, c'est-à-dire qu'elle s'objectifie pour se montrer comme étant un désirable. Donc, mais très bien, je veux dire, ça a totalement le droit d'exister. Seulement les œuvres qui produisent du female gaze et qui justement arrêtent de regarder à distance les femmes et nous font rentrer dans le corps féminin, souvent c'est des grandes œuvres parce qu'elles doivent déconstruire les codes. Et elles doivent donc, les cinéastes, hommes ou femmes, doivent réfléchir à comment ils veulent filmer. Donc ça peut être Titanic et James Cameron, vous voyez, du très très grand public. Ça peut être Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, ou ça peut être des séries peut-être plus de niche comme Fleabag. Enfin, je veux dire, c'est partout, il faut juste savoir le regarder. Et c'est ce que j'essaie de faire avec ce livre, c'est de créer un corps avec ces films et ces séries qui nous montrent différemment notre rapport au corps et au désir.
La manière de filmer différemment les corps, justement, sur lequel vous insistez, modifier le cadre pour faire des personnages féminins, non plus des objets de désir, mais de vrais sujets. Natacha.
Oui, mais enfin, qu'une femme veuille se montrer désirable ne me semble pas absolument tragique, et ça me semble une façon pour elle de vivre sa féminité, et ce n'est pas forcément une soumission au patriarcat que d'aimer ce rapport de désir. Simplement, on voit bien que votre regard sur le cinéma rejoint ce qui est en train de se passer actuellement autour de l'ensemble du cinéma français et même mondial, et on a l'impression qu'il y a tout de même, même si vous vous en défendez, une façon de présenter les choses qui consiste à dire, en gros, pour reprendre les termes de Corinne Massiero, le cinéma s'est tenu par des mâles blancs de plus 50 ans, bourgeois catholiques, dit-elle, ce qui me semble déjà tout à fait douteux. Et en gros, il faut 50%, c'est le combat d'une partie du cinéma français, une parité dans le cinéma pour modifier ce patriarcat, ce dont vous parlez. Bon, Est-ce que, j'en reviens là, est-ce que c'est comme ça qu'on juge des œuvres? C'est-à-dire que...
Mais personne n'est en train de juger des œuvres.
Si, si, bah, parce que, pardon, mais une cérémonie comme celle des Césars, elle juge des œuvres, elle juge leur qualité, elle ne juge pas la question de savoir si c'est,
pas du tout.
Si ces œuvres sont féministes ou ne sont pas féministes. Elle essaye de multiplier les critères. Or, on voit bien qu'il y a un combat aujourd'hui qui consiste à dire la question est celle du genre, la question est celle du patriarcat, et c'est finalement à cette aune qu'on va juger les films. Et on voit bien dans les analyses que vous faites des films dans votre livre que c'est finalement la seule chose qui compte. Je prends un exemple, Elle de Verhoeven, que vous analysez avec, en racontant comment il y a eu des analyses différentes sur la culture du viol dans ce film. Enfin, c'est-à-dire que la seule chose finalement qu'on finit par entendre sur le cinéma, c'est est-ce que le fait d'être violé, de réagir comme le fait le personnage dans ce film, ça encourage la culture du viol ou pas la culture du viol? Il me semble, je le répète, qu'on a d'autres choses à dire sur le cinéma et sur le film, et qu'en tout cas c'est pas par une parité et c'est pas en imposant la présence des femmes qu'on va changer quoi que ce soit à l'ensemble de ce qu'est une œuvre d'art. Et je pense que c'est une aberration.
Iris Bray.
Alors, il faut reprendre beaucoup de choses. Alors déjà, évidemment que toutes les femmes peuvent désirer dans la manière dont elles ont envie de désirer. La question, c'est...
Ou d'être désirée. Parce que ce que vous nous expliquez, c'est qu'il fallait pas qu'elle ait envie d'être désirée.
Je n'ai jamais dit ça, en fait. Je ne parle pas des femmes, je parle d'œuvres d'art. Donc je ne dis pas aux femmes comment elles doivent se comporter dans la vie. J'interroge notre inconscient patriarcal et la manière dont on est formé par les images à désirer. Après, on n'est pas obligé de faire ce travail-là. Mais si on le fait, souvent, ça devient quelque chose d'intéressant puisqu'on voit les choses différemment. Donc, la culture du viol, elle est aussi dans nos images. Si vous ne savez pas analyser une scène de viol, et ben souvent, vous ne comprenez pas ce qui est en jeu dans un film. Donc, c'est pas de dire il faut des films sans viol ou il faut des films avec viol. Ce que j'interroge, c'est la manière dont on met en scène les violences sexistes et sexuelles. Ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. C'est que si on n'arrive pas à reconnaître un viol, c'est très grave.
Non mais le problème n'est pas de savoir si on y arrive ou pas.
Quant à la parité, en fait, dans le cinéma français, évidemment que si on s'ouvre à d'autres regards, on va avoir d'autres récits. Or, la plupart des récits qu'on a se ressemblent et deviennent donc un peu inintéressants. Donc, l'ouverture des Césars, c'est de se dire, d'interroger pourquoi ce sont toujours les mêmes personnes qui racontent les mêmes histoires. Et si on peut avoir une multiplicité de points de vue, on aura des récits beaucoup plus riches.
Sauf que, encore une fois, tout dépend de la juste mesure là-dedans. C'est-à-dire que qu'il faille ouvrir et qu'il faille apporter d'autres récits, je suis d'accord. Mais là, on est dans un combat qui consiste à dire que la parité doit primer. Or, la différence des récits ne repose pas sur le 50-50.
Iris Bray.
On est dans les écoles de cinéma à 51% de femmes qui veulent devenir réalisatrices. Celles qui étudient, on est à 51%. Après, on tombe aujourd'hui, en 2019, à 18%. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème systémique, c'est-à-dire que ces récits-là qui ont envie d'être portés par des femmes, qui raconteront des choses très différentes. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on va raconter une seule chose. Mais ça va forcément changer le paysage audiovisuel français si on s'ouvre. Donc non, la parité ne va pas dire qu'on va faire plus de films féministes, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, ça va changer ce qu'on voit sur nos écrans, c'est sûr.
Pour prendre un exemple concret que citait Natacha, celui du réalisateur Paul Verhoeven, il a réalisé un film, Elle, avec Isabelle Huppert, qui avait été notamment récompensé d'ailleurs au César, et où il y a une mise en scène justement du viol. Qu'est-ce qui vous frappe en tout cas dans la manière dont Paul Verhoeven filme le viol? Pourquoi est-ce que la façon dont il le fait permet d'élaborer un discours ou d'interroger ce que nous voyons à l'écran de manière différente d'un autre cinéaste par exemple?
On a beaucoup, enfin, les féministes en général ont reproché, en fait, à ce film de participer à la culture du viol, puisqu'on voit une femme qui a envie d'avoir une relation avec son agresseur, et que comme on a tellement peu de récits sur le viol, que quand on en a un, on aimerait qu'il reflète un peu la réalité. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de refléter une réalité sociale, c'est de m'interroger sur comment est-ce qu'un cinéaste met en scène le viol. Pour Paul Verhoeven, il est toujours du côté d'Isabelle Huppert, c'est-à-dire que le viol est toujours représenté à travers son regard à elle, son expérience à elle, ou à travers le regard d'un chat, donc un regard neutre. Donc à aucun moment il va érotiser en fait les violences faites aux femmes, il va justement mettre en place un discours autour d'une femme qui a envie de vivre ce qui lui est arrivé à sa manière. Donc c'est un film compliqué parce que la mise en scène finalement n'adopte pas forcément le discours féministe, mais pour moi ça reste un film féministe parce qu'on est tout simplement dans une expérience qu'on voit rarement et qui décide de ne pas érotiser cette expérience-là.
Pour ma part, j'ai détesté ce film, je l'ai trouvé tordu et d'un ennui profond et cochant absolument toutes les cases du ridicule, notamment dans cette scène de viol. Ah oui, mais vraiment, je suis sortie de là, mais consternée, franchement consternée. Et ça représente pour moi exactement le cinéma dont je n'ai pas envie. Et en fait, ce qui m'inquiète quand je vous entends...
Mais ce n'est pas le seul film dont parlait Iris Bray,
mais bien entendu.
La question du viol
mais
est posée. Game of Thrones, par exemple, la série
aussi. Ce qui m'inquiète quand je vous entends, c'est que finalement, j'ai l'impression que le risque, à force d'adopter ce regard qui est le vôtre, c'est qu'on incite toutes les femmes qui veulent faire du cinéma à ne le faire que sous le prisme de la question
pas.
De la déconstruction du patriarcat.
Absolument
Or,
pas.
J'estime que les femmes ont beaucoup d'autres choses à dire que cela et que ce qui m'intéresse, c'est quand une femme parle de l'ensemble de ses, enfin, expose l'ensemble de sa vision du monde et pas uniquement la question du patriarcat, des violences faites aux femmes,
mais
etc.
Enfin, moi,
je pense
déjà,
qu'on a beaucoup plus à dire.
Déjà que j'aimerais bien que beaucoup d'hommes cinéastes s'intéressent à ces questions-là. Ça donnerait aussi d'autres grandes œuvres. Ce n'est pas la responsabilité des femmes de s'interroger sur le patriarcat.
On peut s'intéresser à d'autres choses.
Mais enfin, ça fait partie de notre vie de quotidienne.
Oui,
partie. Mais enfin, je ne dis pas à toutes les femmes de faire des films sur comment est-ce qu'elles sont soumises au patriarcat ou comment elles ont envie.
Mais ça fait deux ans que dans ta matière de cinéma, on ne parle plus que de ça.
Mais où, en fait, c'est absolument pas. Lisez les critiques.
Au festival de Cannes, au festival tout le temps.
On n'en parle jamais. Lisez les critiques, c'est absolument pas quelque chose de présent dans la critique française. Absolument pas.
Et puisque vous parliez de Cannes, justement, Iris Bray était en 2018 au festival avec 82 femmes qui avaient monté les marches du festival pour dénoncer le manque de représentation
et
des femmes.
Et cette année-là, on n'a parlé que de ça au festival de Cannes.
Natacha Polony a parlé de Elle de Paul Verhoeven qu'elle n'a pas aimé. Moi, j'aurais parlé d'un autre film que vous évoquez beaucoup et que j'ai aimé, qui est Portrait de la jeune fille en feu de Siama. Je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'il nous interroge en tant que spectateur sur la manière dont on pense un film. Et vous dites que l'intérêt du film Elgel, c'est de prendre conscience que nous sommes dans le film, qu'on passe d'une position passive à une position active. Or, ce film que vous citez comme une illustration réussie du film Elgel, que j'ai aimé, mais ce que je lui reprochais est justement ça, c'est de me mettre à distance, et je ne crois pas simplement parce que je suis un homme, de mettre à distance parce qu'il était peut-être très esthétique, trop esthétique, très intellectuel, trop écrit, et que justement, je regardais ça à distance. Donc, est-ce que le female gaze fait nécessairement plus participer le spectateur ?
Iris Bray.
Oui, je pense que ça fait plus
c'est
participer
moi,
le spectateur.
C'est vous le spectateur.
Non, mais peut-être que je vous invite à revoir ce film, parce qu'en fait, c'est une grammaire cinématographique tellement nouvelle et inédite que si vous passez à côté, c'est peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir ces récits-là racontés comme ça, et vous n'avez pas l'habitude même de cette grammaire érotique. Donc,
c'est possible que ce soit moi. Justement, peut-être alors l'autre question derrière.
Mais juste pour petite parenthèse, ceux qui n'auraient pas vu le film, par exemple, il y a dans ce film qui raconte une histoire assez complexe et d'ailleurs qui est lui aussi plusieurs fois nommé au César et notamment à Delenel pour le rôle qu'elle y joue et la catégorie, elle est dans la catégorie meilleure actrice, mais il y a par exemple un sexe féminin filmé pendant les règles. Ça, c'est quelque chose de très nouveau ou inédit.
Oui. Bah, représenter l'avortement du point de vue féminin, représenter les règles, représenter une histoire d'amour sans qu'il y ait de domination, ce sont des choses inédites, oui, absolument. Et quant à la question de la participation dans le female gaze, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les cinéastes qui ont envie de mettre le female gaze réfléchissent tout le temps à qu'est-ce que ça veut dire que d'être dominé. Et que souvent, c'est des cinéastes qui n'ont pas envie de dominer le spectateur ou la spectatrice, mais d'être en dialogue avec eux. Et qu'il y a une question de participation, en fait, dans le female gaze. Et que moi, je me sens, dans mon corps, en fait, participer à une œuvre. Je la ressens, elle m'habite. Et c'est ça qui m'intéresse avec ces films-là. C'est pas des films qui nous laissent indifférents, c'est des films qui nous convoquent. Alors parfois, peut-être qu'on n'arrive pas à entendre le message ou on n'arrive pas à rentrer en dialogue avec lui, mais en tout cas, c'est des œuvres qui sont dans la générosité de cela.
Natacha.
C'est-à-dire qu'il y a tout de même enfin, un implicite dans votre discours qui consiste à dire que finalement les films faits par des hommes ou montrant des relations de désir sont montrent un rapport de domination, c'est ce que vous venez de nous expliquer.
Et que pas tous les hommes,
pas tous les films. Et qu'il faut absolument des femmes pour filmer parce que du coup il y aurait plus de rapport de domination.
Ridley Scott et Thelma et Louise par exemple.
Je viens de dire James Cameron c'est un homme.
Oui, mais vous nous expliquez en gros que ce rapport de... Il y aurait des... Vous venez de dire que c'est inédit de montrer un rapport amoureux dans lequel il n'y a pas de domination.
Non, je parle de montrer un rapport amoureux à égalité. La mise en scène de l'égalité, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare, bien
Alors,
sûr que oui.
D'abord, je ne pense pas dans la mesure où de nombreuses œuvres...
Bah écoutez, j'ai passé deux ans à regarder des nombreuses œuvres, donc je peux vous le dire.
Très bien. Non, mais vous l'avez regardé avec votre point de vue. Mais surtout, cette obsession de la domination, cette obsession de la domination, là encore, est un prisme unique. Parlons d'ailleurs de la façon dont c'est interprété dans la critique de cinéma. Il y a eu un article récemment de Marine Turchi sur Mediapart à propos de l'émission Le Masque et la Plume. Et donc, tout le propos de cette enquête de Marine Turchi, qui avait écouté 96 émissions du Masque et la Plume, consistait à dire les critiques de cinéma de cette émission, et d'ailleurs critiques littéraires également, sont misogynes, sexistes, adoptent un rapport qui est un rapport de domination, valide la culture du viol, enfin d'une espèce de truc qui donnait une impression de cette émission absolument hallucinante, qui reposait sur le fait d'aller piocher systématiquement les quelques phrases, des intervenants qui allaient dans ce sens-là, en oubliant absolument tout le reste. J'écoute cette émission à peu près tous les dimanches, et ce qui me frappe pour ma part, quand je l'écoute, c'est le fait que dans le cinéma et dans la littérature, ces dernières années, il est énormément question des violences faites aux femmes, et ça revient, c'est une thématique qui est devenue tout à fait dominante dans les œuvres d'art, ce qui est sans doute très bien parce que c'était pas assez le cas peut-être avant. Mais on ne peut vraiment pas dire que ce soit occulté. Et je suis très souvent frappée d'entendre dans cette émission des critiques dont j'estime que, justement, ils jugent l'intention, c'est-à-dire le fait de déconstruire le patriarcat, de parler des violences que subissent les femmes, et pas la qualité artistique des œuvres. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup amusée de lire la lecture totalement univoque de Marine Turchi, qui consistait à nous expliquer que on était dans le patriarcat absolu, que c'était absolument monstrueux. Et je pense que cette vision... Elle est en train de s'imposer et elle est réductrice à un point incroyable.
Rassurez-vous, Natacha.
Mais j'ai pas peur, je vous rassure.
Cet article-là montre à quel point, en fait, c'est systématique. Et peut-être que vous ne l'entendez pas quand vous écoutez cette émission, parce que vous êtes habitué à cela. Si on arrive à trouver
une merde, si on prend pour une imbécile.
Mais non, mais c'est. Alors,
c'est vrai que vous en avez parlé chez Augustin Trapenard.
Non, mais je pense qu'il faut quand même ce que montre cet article, c'est que il y a un inconscient qui est mis en place, même quand on est critique, qu'on soit homme ou femme, et que ces remarques sexistes, elles arrivent très souvent dans cette émission, et que ça nous conditionne évidemment d'entendre ça, et qu'à partir, mais même Jérôme Garcin, dans sa réponse, le dit.
Non, Jérôme Garcin s'est senti obligé de se défendre.
Revenons au cinéma.
C'est la critique de cinéma, et ça revient à. C'est la question du jugement qu'on a sur les œuvres. Or, ce que je reproche à cet article, c'est de ne piocher que ce qui l'intéresse et d'être dans le systématisme absolu pour essayer d'inventer une domination totale.
Mais elle n'est pas dans l'invention puisqu'elle relève.
Tout le monde n'ayant pas lu l'article.
Non, elle relève certaines phrases et pas le discours contraire.
Mais enfin, elle montre de manière très claire, en écoutant 93 émissions, qu'il y a énormément de remarques sexistes et misogynes. Et elle interroge pourquoi est-ce qu'on entend ça.
C'est tout le contraire aussi.
Vous pensez qu'il y a énormément de remarques féministes dans cette émission?
Oui, énormément. Je l'écoute et il y en a énormément.
Mais j'attends votre article, justement, qui va nous montrer le nombre de remarques féministes dans l'émission.
Non, mais je ne vais pas m'amuser à faire la dactylographe. Je pense que les auditeurs peuvent l'entendre et que tout cela
raconte. Ils sont nombreux, de toute façon, à l'entendre et à se faire leur avis sur ce qui se passe dans cette émission.
Tout cela raconte une lutte de pouvoir qui se joue actuellement dans le cinéma français et même dans la critique d'art en général et qui me semble extrêmement malsaine parce que est en train de détourner de la capacité à dire le monde dans sa, dans son,
absolument
sa pluralité.
Pas. C'est une possibilité de dire le monde dans sa pluralité si on réfléchit à comment est-ce que les hommes et les femmes sont représentés sur nos écrans. En quoi est-ce que c'est réducteur de réfléchir à comment est-ce que ces corps sont mis en scène? Dites-moi, en quoi est-ce que c'est réducteur?
Ce qui est réducteur, c'est de ne voir que ça.
Exemple, la jouissance. On a parlé du viol. La manière aussi dont on filme la jouissance au cinéma, c'est quelque chose qui, pour vous, en dit long et en dit très long sur le regard qu'on peut porter sur les femmes. C'est-à-dire que il y a, pour le coup, même dans la manière très concrète de réaliser un film, un métier qu'on connaît très peu en France, mais qui commence à s'imposer de plus en plus aux États-Unis, c'est le métier de coordinateur d'intimité sur un tournage. Qu'est-ce que c'est ?
C'est quelqu'un qui est là pour s'assurer que le réalisateur ou la réalisatrice respecte la manière dont le corps des acteurs et des actrices va être filmé s'il y a un protocole qui a été établi avant. Donc par exemple, si une comédienne demande à ce que ses seins ne soient pas filmés, qu'elle se retrouve pas après la scène à ce qu'on lui dise « en fait finalement on a filmé tes seins sans son consentement » et qu'elle n'ait pas le pouvoir de dire « ça ne me va pas ». Puisqu'en fait, c'est très très souvent le cas, puisqu'il y a des rapports aussi de domination sur ces plateaux. Donc, c'est s'assurer que les comédiens et les comédiennes puissent dire en fait ce qu'ils acceptent de montrer ou non, et donc d'être dans le consentement de ce qu'ils ont envie de montrer. C'est ça. Quant à la question de la jouissance, elle est très peu représentée, c'est-à-dire que les orgasmes féminins sont rarement présents. Et que souvent, quand ils sont filmés à travers ce female gaze, ça donne des images inédites et du coup d'une très grande puissance.
Quand vous dites illustration, que c'est très peu présent, là encore, justement, Gilles.
Non, illustration, là encore, pour qu'on ne soit pas simplement dans un discours abstrait, est-ce que vous avez des exemples et des contre-exemples, enfin, des exemples de jouissance de male gaze, de jouissance féminine montrée du point de vue du regard masculin et du point de vue féminin?
Par exemple, la manière dont Chantal Akerman filme l'orgasme, que ce soit dans Jeanne Dielman ou la jouissance dans Je tue, il, elle, ou ces deux corps féminins qui s'embrassent pendant de longues minutes, je trouve ça absolument sublime parce que ça nous raconte que le sexe, c'est pas quelque chose forcément de qui rentre dans une norme. C'est-à-dire que dans la plupart des représentations, on nous montre des rapports hétérosexuels entre un homme et une femme, et un rapport qui se termine comme quand l'homme jouit. Souvent, on ne se préoccupe jamais du désir féminin, il n'est jamais représenté. Donc il y a certaines cinéastes, hommes ou femmes d'ailleurs, qui ont envie de mettre l'accent sur cette expérience féminine, qui est aussi une expérience sans fin. Donc ça change, je veux dire, une femme qui jouit, ça s'arrête pas là, le rapport sexuel, donc ça peut continuer. Donc des hommes et des femmes cinéastes qui ont envie de montrer ça doivent réinventer une grammaire, doivent réinventer une temporalité, et même doivent réfléchir à comment est-ce qu'on cadre ça. Parce que le visage d'une femme qui jouit est une de nos images manquantes.
Manquante, sauf dans certains espaces, notamment une série extraordinaire, Fleabag, où on voit justement que...
Elle ne jouit pas dans Fleabag.
L'adresse à la caméra, elle ne jouit pas au sens strict.
Non, elle n'a pas d'orgasme, j'en ai parlé avec justement la showrunneuse Phoebe Waller-Bridge, et justement c'est une héroïne qui n'a pas d'orgasme, mais qui est à la recherche de l'orgasme.
Mais ça produit du coup un effet comique.
Ouais. Parce qu'en fait, c'est donc une héroïne qui regarde dans la caméra pendant les scènes de sexe. Donc, ce regard direct à la caméra, cette adresse à nous, empêche en fait toute érotisation, puis surtout crée un dialogue entre nous et elle, et aussi une complicité et beaucoup, beaucoup d'humour. Et c'est ça, on peut aussi rire en fait pendant toutes ces scènes-là. Et c'est aussi ce que Adèle Haenel vous disait à votre micro quand elle était venue parler de Portrait de la jeune fille en feu. Elle disait que elle, quand elle avait vu la scène de sexe du film, la scène érotique, elle avait eu envie de rire.
Oui.
Oui, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'humour dans le sexe.
Natacha ?
Oui, non, j'étais en train de penser au film que moi j'aime, Les Sept Samouraïs, Le Pianiste, enfin, ce genre de cinéma. Donc je pense qu'il y a toutes les formes de cinéma et que... J'aimerais encore une fois qu'on ne se focalise pas uniquement sur une dimension des œuvres d'art.
Mais la mise en scène, c'est pas une dimension en fait, c'est le
centre. Non, mais la mise en scène n'est pas une dimension. C'est ce qui est une seule dimension, c'est la lutte contre le patriarcat, contre la domination, le fait que de savoir si la femme joue ou ne joue pas.
C'est interroger nos représentations et interroger nos images manquantes et interroger les récits manquants. Qui a la parole? Qui raconte quoi? C'est ça le cinéma. C'est se poser cette question-là, c'est une question globale en fait.
Oui, mais ce n'est pas uniquement les femmes qui sont manquantes dans le cinéma ou dans le reste, ce n'est pas uniquement la parole des femmes.
Bah beaucoup quand même.
Entre autres.
L'émission, malheureusement, arrive à son terme.
Dernière question pour moi.
Mais d'un mot, Gilles, parce qu'il faut qu'on rende l'antenne.
D'un mot. Vous dites que cette parole des femmes donc est manquante. Quand on regarde la filmographie et la sérigraphie sélective, évidemment, qui sur laquelle s'appuie votre essai, il y a un certain nombre d'œuvres qui sont des œuvres connues. Il y en a d'autres qui sont plus inconnues, ou en tout cas plus discrètes. Est-ce que c'est un problème de production ? La production est insuffisante ? Ou est-ce que c'est un problème de réception, c'est-à-dire que les spectateurs ne sont pas prêts à recevoir ces œuvres-là?
Non, je pense que les spectateurs et les spectatrices sont totalement prêts à recevoir ces œuvres-là, mais il faut qu'elles soient à nouveau diffusées, puisque la plupart de ces œuvres, elles, ont été censurées.
Moi, j'ai découvert que le premier orgasme au cinéma, il avait été filmé en 1933 dans un film qui s'appelle L'Extase.
Ouais, c'est Eddie Lamarr qui joue ce rôle-là.
Ça fait partie des choses qu'on apprend en lisant Le regard féminin, une révolution à l'écran. Merci Iris Bray d'avoir été l'invité du Grand Face à Face. Votre livre est publié aux éditions de L'Olivier. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain, juste après la cérémonie des Césars, donc qu'on regardera attentivement. Merci à Paola Purari qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Louis Audebert.